Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussa Oumpondé à la présentation.
À la suite de la prolongation de la trêve humanitaire dans l'est du pays, un notable de Bouito en déplacement depuis plus d'une année à Goma plaide pour la cessation durable des hostilités afin de permettre le retour des déplacés. J'ai encore la signature et je peux révoquer les fauteurs des troubles. J'en appelle à la non-violence et à l'unité. C'est la mise au point d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, après des déclarations de certains membres de ce parti sur sa destitution. Jean-Toby Okala, responsable de communication stratégique de l'information publique de la MONUSCO à Beni Boutembo et Lubero, Nord Kivu, est notre invité. Il parlera des conséquences de la désinformation et des fausses rumeurs à la base des cas de justice populaire dans le Grand Nord de cette province. Bonsoir à tous. Cette édition part du Nord Kivu où un notable de la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru, plaide en faveur de la cessation durable des hostilités. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambou, en déplacement depuis plus d'une année à Goma, réagit ainsi à l'annonce faite mercredi de la prolongation de la trêve humanitaire pour 15 jours. Il demande au gouvernement congolais et au Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique de mettre définitivement fin au combat opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 RDF par la voie politique et diplomatique. C'est là pour permettre la reprise sans entrave des actions humanitaires et le retour des populations déplacées. Isaac Kibira, joint ici par Bernard Danyangi.
Depuis que la guerre a commencé, si du moins de telles trêves avaient été décrétées avant qu'une grande masse de la population puisse fuir et perdre leurs biens et perdre aussi la vie, en tout cas ça serait mieux. Alors aujourd'hui, nous encourageons l'initiative des États-Unis d'Amérique qui demande qu'il y ait encore une prolongation de 15 jours afin que les humanitaires puissent atteindre les déplacés et les retournés qui sont ça et là dans les différentes lignes de front et les endroits qui sont touchés par les guerres. Alors, nous demandons aux États-Unis de continuer avec cette initiative afin que la guerre puisse en tout cas être arrêtée. Celui qui n'a jamais fui peut dire non que la guerre continue pendant que les jamais le village tombe entre les mains des M23 RDF. Si vous allez dans le Bito, à Katsiru, vous allez à Kichanga, vous allez à Tongo, vous allez à Bambu, vous allez à Kanyabayonga, vous allez à Kirumba, vous allez à Mutanda. Les gens souffrent. En tout cas, nous demandons que la guerre puisse trouver une solution définitive et donner la chance au retour de la paix dans la région des Grands Lacs.
Rappelons que la prolongation de cette trêve est en vigueur jusqu'au 3 août à 23h59. Et puis, l'Union européenne se félicite de cette prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire qu'elle juge indispensable dans l'est de la RDC. C'est sa porte-parole qui l'annonce à travers son compte X, anciennement Twitter, hier jeudi. Nabila Masrali écrit, je cite, « L'engagement continu des partis devrait conduire à un cessez-le-feu permanent et permettre de construire une solution politique durable dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, signalant que depuis deux semaines, les États-Unis ont annoncé une trêve humanitaire dans l'est de la RDC pour permettre aux humanitaires d'assister les milliers des déplacés qui fuient le combat entre les FARDC et les rebelles du M23 au Nord Kivu. En Ituri, le gouverneur demande aux groupes armés de cesser toute violation de droits de l'homme contre la population dans les régions minières, conformément aux différents actes d'engagement signés par leurs leaders. C'est là, en attendant l'effectivité du programme de désarmement et démobilisation, PDD-RCS, il l'a dit au cours d'un point de presse mercredi à Bounia. Le général Johnny Luboya réitère la détermination de l'armée à poursuivre tous les miliciens réfractaires au processus de paix vers Mongwalou. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Ces hommes-là, maintenant, ils n'ont pas d'autre issue. Ils n'ont pas malheureusement aussi d'alternative. Parce que nous nous avons pas proposé des activités valorisantes, étant donné que le PDDRCS ne fonctionne pas. Et donc, il y a beaucoup de mines à Lodjo, à Pluto et tout. Ils sont en train maintenant de se disputer qui veut prendre deux ou trois mines ici pour, n'est-ce pas, peut-être subvenir à leurs besoins. Nous leur disons, ils peuvent rester dans les mines, mais sans armes, même en attendant le PDDRCS. Mais s'ils sont en train de s'attaquer aux populations. Nous avons, n'est-ce pas, une très bonne planification. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à l'ICI. Nous allons les suivre partout où ils sont et nous serons obligés d'utiliser l'approche militaire, d'ailleurs que nous avons déjà commencé par ailleurs. S'ils persistent, nous aussi nous allons persister et nous allons encore engager plus d'hommes. Donc là, vraiment, c'est une opportunité pour parler à ces frères-là, pour qu'effectivement, ils s'arrêtent.
Plusieurs groupes de présumés bandits ont été présentés hier jeudi à Lubumbashi au vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga par le commissaire provincial de la police. Pour le commissaire divisionnaire, ces hommes ont longtemps sémé la terreur et endeuillé plusieurs familles dans l'espace Grand Katanga. Au moment de leur arrestation, certains ont réussi à fuir avec les armes à feu. Le vice-gouverneur, qui a félicité la police pour ce coup de filet, a demandé qu'il soit déféré devant la justice afin que chacun réponde de ses actes. D'autres détails avec Jean Gandou.
Le premier comprend deux hommes qualifiés par la police des bandits de grand chemin. Ils font partie de la clique du célèbre Kabengele, toujours recherchés par les services de sécurité. À leur actif, de nombreuses tueries, dont celle d'un agent de l'Agence nationale des renseignements, lors de leur évasion du cachot de ses services d'intelligence en 2021. Arrêtés pour la seconde fois et conduits au cachot de la 22e région militaire, ils se sont fait la belle. Le deuxième groupe, accusé par la police d'avoir commis de nombreux cas de meurtre, dont celui d'un élu des Kalemie dans la province du Tanganyika. Le troisième a pour spécialité le vol des véhicules. À en croire la police, ces hommes ont reconnu avoir déjà volé 25 véhicules. Ils opèrent dans les trois principales villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Tous ces présumés bandits ont été arrêtés dans les sites miniers, les uns dans le Haut-Katanga et les autres dans le Lualaba. Pour la police, certains d'entre eux opèrent par moments en Zambie voisine. Le quatrième groupe est constitué des jeunes du quartier Matipicha à Lubumbashi. Ils opèrent avec les armes blanches et sont plus actifs dans certains quartiers des communes de Lubumbashi et de Katuba. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kwilu, le gouverneur félicien Kiwai Mwadi déplore l'insécurité causée par le phénomène Mobondo dans le territoire de Bagata, insécurité venue du territoire de Kwamout au Maïndombe. Il déplore également la résurgence du phénomène Kuluna, ainsi que le mauvais état de toutes les prisons à travers la province. La situation a été présentée au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a séjourné à Kikwit en vue des solutions idoines. Ce dernier a promis d'apporter dans les tout prochains jours des réponses appropriée à ces problèmes, rapporte Félicien Kiwai Mwadi. Il est au micro de Irène Bomaluzolo.
Nous avons pu formuler la situation générale de la province du Kwilu et très singulièrement l'insécurité qui règne des conflits de Keyaka dans la province du Kwilu, plus précisément dans le secteur de Fatundu, territoire de Bakata, où nous avons tracé l'essentiel de la situation qui est. Nous sommes victimes et nous avons interpellé les VPM de nous appuyer sur le plan logistique et militaire de faire face à toute insécurité liée à ces fameux Mobondo. Et nous avons aussi parlé de la sécurité à travers nos deux villes, nos cinq territoires où le phénomène Kuluna s'est fait développer. Nous avons aussi formulé une recommandation que toutes nos prisons dans la province de Kwilu sont vraiment à un état de délabrement très avancé, que ça mérite la reconstruction. Donc l'appui du gouvernement central sera bienvenu.
J'ai encore la signature et je peux révoquer les fauteurs des troubles. J'en appelle à la non-violence et à l'unité. Déclaration hier soir d'Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel. Il répondait ainsi à la déclaration de certains membres de ce parti qui disent l'avoir destitué, comme vous l'avez suivi ce matin sur nos antennes. On écoute Augustin Kabuya dans cet extrait proposé par Arcel Kajourou.
N'agissons pas dans la violence, j'insiste, personne n'a le monopole de la violence. Je vous exhorte à ne pas avoir des échanges violents sur les réseaux sociaux. Je le dis encore une fois, en tant que numéro un du parti et qui fait l'intérim du président du parti.
Également dans l'actualité, des personnes vivant avec handicap ont accusé hier jeudi le député Eliezer Ntambwe de vouloir déstabiliser leur ministre des tutelles. À Radio Okapi, l'un d'eux, Pascal Prosper Mukulumanya, président du Rassemblement des yeux et sans yeux du Congo, a recommandé à l'élu de la Lukunga de laisser la ministre Irène Essambo poursuivre sa mission au sein du gouvernement. Pour lui, cette action divise les personnes vivant avec handicap et entrave les actions du gouvernement en leur faveur. On écoute Pascal Prosper Mukulumanya.
L'honorable Tambo Eliezer est en train de déranger le ministère des personnes vivant avec handicap. Il dérange ça, je ne sais pas pourquoi. Il a quel intérêt? Il a même donné un bureau pour les personnes vivant avec handicap. Il profite de leurs conditions physiques et de leur vulnérabilité pour les envoyer dans la rue contre le ministère des personnes vivant avec handicap et contre le ministre elle-même. C'est un député national. Lorsqu'on l'appelle honorable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui mérite des honneurs. Je ne sais pas, il cherche quoi. Lui-même n'est pas handicapé. C'est invalide. Le chef de l'État venait de signer une ordonnance de la composition des membres du gouvernement dont fait partie Madame Irène Essambo. Qu'on nous laisse évoluer et voir comment est-ce que ce quinquennat va terminer. Qu'est-ce de commencer à faire des bruits inutiles.
De son côté, le député incriminé juge non fondé toutes les allégations mises à sa charge. Eliezer Ntambwe indique n'avoir jamais incité quiconque à descendre dans la rue pour manifester contre un membre du gouvernement. Il a cependant demandé à la ministre citée de présenter son bilan au lieu de, je cite, chercher des boucs émissaires pour se victimiser. On écoute Eliezer Ntambwe.
Je ne sais pas si je dois donner une réponse à ces agitations qui ne disent pas son nom. C'est par contre eux qui sont manipulés par la personne dont vous citez. Vous citez mon nom parce que je suis avec les personnes vivant avec handicap depuis plusieurs années et j'ai commencé à m'occuper de ces personnes-là avant que madame dont vous citez ne soit ministre. J'ai jamais rêvé ce ministère-là. Je l'ai fait par affection à ces gens-là et sa démarche devrait être de répondre aux besoins de cette population dont elle a la charge, dont elle reçoit les moyens auprès de l'État pour s'occuper d'eux. Au lieu de me voir partout dans ses rêves, ce n'est pas ce ministère-là qui m'intéresse parce qu'on ne cherche pas ce qu'on a. J'ai plusieurs personnes vivant avec handicap qui sont membres de mon parti et c'est de leur droit, ce sont les gens qui ont été abandonnés pour les utiliser pour d'autres fins.
Ce dossier est signé Blaise Ndongala. Au cours de la dernière décennie, le taux de décès dû aux accidents de la circulation ont considérablement augmenté en Afrique, entraînant la perte de près de 250 000 vies humaines sur les routes du continent rien qu'en 2021. À l'inverse, le taux de décès dû aux accidents de la route ont diminué de 5% au niveau mondial pendant la même période, indique un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Entre 2010 et 2021, l'Afrique a enregistré une augmentation de 17% des accidents mortels de la route, comme l'indique le rapport de situation de l'OMS sur la sécurité routière dans la région africaine en 2023. La région concentre près d'un cinquième de tous les décès dus à la circulation routière dans le monde, alors qu'elle ne compte que 15% de la population mondiale et seulement 3% des véhicules dans le monde. D'autres détails sur ce rapport avec vous, Alain Rung.
Le rapport attribue cette augmentation à plusieurs facteurs, notamment l'insuffisance des législations et des normes en matière de sécurité routière. Aucun pays de la région ne s'est encore doté des lois conformes aux meilleures pratiques concernant les 5 principaux facteurs des risques comportementaux en matière de sécurité routière, à savoir l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port du casque à moto et de la ceinture de sécurité en voiture, ainsi que l'absence des dispositifs de retenue pour enfants. Les conclusions de ce rapport révèle un grave problème en matière de santé publique dans les pays africains où des centaines de milliers de vies sont perdues inutilement. À l'OMS, nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration avec les pays pour répondre à cette menace évitable et continuer de soutenir pleinement tous les efforts visant à rendre nos routes plus sûres pour les conducteurs, tout comme pour les piétons, a déclaré Dr. Matshidiso Somoeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Le rapport mentionne que les hommes âgés de 15 à 64 ans sont les principales victimes des accidents de la route. Les usagers vulnérables tels que les motocyclistes, les cyclistes et les piétons sont les plus affectés. Les décès parmi les motocyclistes ayant doublé ces 10 dernières années.
Actualité internationale. Au Kenya, le président William Ruto a nommé 11 nouveaux ministres ce vendredi à Nairobi, une annonce qui intervient 8 jours après que William Ruto a limogé la quasi-totalité de son gouvernement. J'ai commencé le processus de formation d'un nouveau gouvernement élargi pour m'aider à mener la transformation urgente et irréversible de notre pays, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant d'égrener les noms de 11 personnes choisies, dont plusieurs était déjà présente dans le précédent gouvernement. Le chef de l'État kényan fait face à une profonde contestation suite à une loi des finances controversée et à la répression meurtrière des manifestations contre ce projet depuis abandonné.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, Boutembo et Lubero, au Nord Kivu. Le Grand Nord Kivu, où des innocents sont brûlés vifs, des militaires des FARDC tués par la population à cause de fausses rumeurs et de la désinformation. Jean-Tobie Okala parle des dangers de ce phénomène ainsi que des astuces pour lutter contre ces fléaux qui, selon lui, sont un cancer pour la paix et la démocratie. Il s'entretient avec Martial Papiounke.
Jean-Tobie Okala, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la désinformation?
En termes plus simples, on va dire que la désinformation, c'est la manipulation. C'est l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire une communauté, une personne, des individus tout simplement en erreur. C'est aussi le fait de cacher la vérité ou de travestir les faits. Voilà ce qu'on entend par désinformation. Donc, on veut cacher quelque chose, on veut travestir, c'est-à-dire détourner la réalité des faits parce qu'on a un objectif qu'on veut atteindre.
Pourquoi, depuis quelques mois, la section de communication stratégique et information publique de la MONUSCO multiplie des sensibilisations et formations à la lutte contre la désinformation et les discours de haine?
Ce n'est pas depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois. C'est depuis plusieurs années que la MONUSCO a lancé cette bataille, cette caravane, n'est-ce pas, pour sensibiliser les communautés. Alors, pourquoi le faisons-nous? Mais c'est parce qu'il y a des menaces. Il y a des menaces sur tout. Il y a la menace sur l'information, la menace sur la démocratie, la menace sur la sécurité, la menace sur notre planète, qui est notre maison commune. Il y a la menace sur les médias classiques. Les gens ne croient plus à la radio, à la télévision, aux médias classiques. On préfère se fier à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a les menaces sur la paix, menaces sur la cohésion sociale, menaces sur la santé. On est dans une région qui est souvent victime d'épidémies. Je parle d'Ebola, Covid-19 a été une épidémie mondiale. Mais combien de gens ont perdu leur vie ici, dans cette région, pendant l'épidémie d'Ebola, à cause de la désinformation? Il y a des pays comme le Nigeria, où beaucoup d'enfants sont aujourd'hui des infirmes, des millions d'enfants, tout simplement parce que certains leaders communautaires ont fait passer la fausse information selon laquelle, si les parents les amenaient pour se faire vacciner, ils allaient tous mourir. La désinformation est devenue, je dirais, le fond de commerce de tous ces fossoyeurs de la démocratie, ces fossoyeurs de la vérité, de tous ces complotistes, c'est-à-dire ces gens qui veulent que la société marche, j'allais dire, la tête en bas et les pieds en l'air, si vous me passez l'expression.
Et par rapport à la sécurité?
Mais par rapport à la sécurité, les faits sont là. On oublie parfois que les groupes armés que nous combattons tous, les mêmes techniques de communication que vous et moi, ils lisent ce que vous publiez. Donc leur objectif, c'est de diviser. Que la jeunesse, la société civile, la police, les FARDC, la MONUSCO, l'État, vous les médias, que vous ne fassiez plus bloc contre eux. Ils se gargarisent quand ils voient cette désinformation. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est eux, ces groupes armés, qui créent ce qu'on appelle des robots, des comptes fictifs pour salir une institution telle que la MONUSCO ou même les FARDC.
Exactement, par rapport à ça, est-ce que la MONUSCO et l'État congolais sont victimes de la désinformation?
Mais c'est tous les jours. Imaginez des mamans qui sont au marché, ou des motards, des gens qui n'ont pas accès à la vraie information, et qui peut-être ont été touchés dans leur chair, et qui ont perdu leurs parents, leurs familiers, à cause des atrocités de tel ou tel groupe armé, et qui tombent sur un message comme celui-là, la MONUSCO fait ceci, ou bien les FARDC coalisent avec, je ne vais pas faire la publicité de cette rébellion-là, ou ou de ces groupes armés. Vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau de la cohésion sociale. Il y a la démoralisation. Démoralisation même de ceux-là qui sont au fond. Il y a le tissu social qui se retrouve, j'allais dire, déchiré. Les gens ne font plus confiance aux forces de défense et de sécurité. À qui vont-ils faire confiance? Aux groupes armés qui les tuent? Dans ces gens qui pratiquent la désinformation, ils savent pourquoi ils le font. La désinformation, la manipulation de l'opinion, elle est pernicieuse, elle est mortelle, elle est destructive, et elle est nuisible. Elle sape les efforts des États en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de construction de l'unité nationale et même de lutte contre l'insécurité ou les groupes armés.
Alors, comment lutter contre la désinformation et les discours de haine?
Ça passe par plusieurs choses, plusieurs leviers. Le premier levier, c'est la sensibilisation. Je me dis peut-être qu'il faudrait que dans des programmes scolaires, on inclue des cours sur les dangers de la désinformation dès l'école primaire ou dès le secondaire, je ne sais pas. Il faudrait que les États y réfléchissent. Il faut sensibiliser au niveau de la communauté, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que dans des bureaux, dans des écoles, on organise ces sensibilisations, même si c'est pendant 30 minutes. Beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur des dangers de la désinformation. C'est maintenant, on dit demain se prépare aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut préparer les armes. Les armes, ça s'appelle la sensibilisation communautaire. Les médias, qu'ils soient publics ou privés, doivent aussi jouer leur rôle. Il faut créer des émissions, des débats, pour montrer aux gens comment démonter un cas de désinformation.
Jean Toubi Okala, merci.
Je vous en prie.
Ainsi prend fin ce journal. Alain Irung l'a coordonné sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, Pierre Diassinois l'a mise en onde. Merci de nous avoir suivis.